Pour que ceux qui ne connaissent pas l'origine de la fête d'aujourd'hui, qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie, le dimanche du triomphe de l'orthodoxie, qui est toujours le premier dimanche de carême, c'est parce que, à une époque, il y a eu de grosses persécutions, surtout dans le monde chrétien oriental, donc dans le monde byzantin, si vous voulez, d'opposition aux icônes. Où ceux qui refusaient les iconodules, non, les iconoclastes, pardon, refusaient, accusaient ceux qui vénéraient les icônes, comme nous le faisons aujourd'hui, d'idolâtrie, comme s'ils embrassaient, comme s'ils vénéraient des idoles. Pendant des années et des années, on a persécuté les chrétiens iconodules, donc les amateurs, si vous voulez, vénérateurs d'icônes, jusqu'au jour où un concile a réuni les évêques qui ont expliqué, à la suite de longues décades d'explications théologiques, hein, que la vénération des icônes était loin d'être de l'idolâtrie, parce que quand on embrasse ou vénère une icône, c'est pas l'icône elle-même que l'on embrasse, mais c'est le prototype, c'est-à-dire celui ou celle qui est représentée, qui est rendue présente par l'icône. Quand vous embrassez l'icône de la Mère de Dieu, c'est pas de la peinture, de l'art, ou du bois que vous embrassez, mais c'est que l'icône rend présente, par la force du Saint-Esprit, rend présente la Mère de Dieu, et c'est la Mère de Dieu, évidemment, que vous embrassez. Donc c'est loin de l'idolâtrie, et on a réalisé à ce moment-là que non seulement il était possible, mais qu'il était souhaitable d'avoir des représentations des saints, de manière à ce qu'on puisse manifester notre amour à travers une icône à ces saints-là. Et ce concile, si vous voulez, a été célébré chaque année depuis le premier dimanche le premier dimanche du carême. Pourquoi le premier dimanche du carême, notamment, pourquoi théologiquement? Parce que le carême est un effort ascétique et spirituel pour nous rétablir dans la condition dans laquelle Dieu nous avait créés et dans laquelle nous étions au paradis. Condition que nous avons perdue dans notre état de péché, qui est le nôtre à tous, mais parce que le Christ, qui est Dieu, vient et prend notre nature en lui, sa divinité transfigure notre humanité et nous rend comme ça de nouveau à l'image de Dieu. Avec un perfectionnement évidemment, on n'est pas encore lumineux et chaleureux comme Dieu, mais on est restauré quand même par la grâce de Dieu dans cette voie-là. Et ceci, c'est véritablement la restauration, c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment la confession de notre foi qui consiste à reconnaître que le Christ, que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme, et qu'il nous prend toute notre nature, qu'il nous fait un avec lui. Et c'est ce que nous représentons sur les icônes. La véritable icône, l'icône non faite de main d'homme, non peinte, si vous voulez, c'est le Christ, qui est l'image du Père, l'icône du Père. Et comme le Verbe de Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, puisque nous sommes dans son image, nous sommes nous-mêmes l'image du Christ et l'image de Dieu. Image déchue, comme je viens de le dire, mais que la venue du Christ restaure dans sa vocation première. Donc le carême est le signe et notre participation, notre réponse au don de Dieu qui nous fait accepter ce don de Dieu de restauration pour nous laisser conduire vers lui à cette glorification dont notre résurrection, que l'on célébrera notamment le jour de Pâques à travers celle du Christ, mais qu'on célèbre aussi tous les dimanches et même à chaque liturgie et même à chaque prière, la manifestation de notre glorification sera par la résurrection, et évidemment notre accession à la vie éternelle après notre résurrection. Mais aussi le triomphe de l'orthodoxie dépasse de beaucoup cela, ou plus exactement, on peut pas dépasser cela. Mais le triomphe de l'orthodoxie se manifeste encore d'autres manières. L'orthodoxie, comme je vous disais, c'est la reconnaissance que Dieu s'est incarné dans la deuxième personne divine est devenue homme, a pris une nature humaine tout en gardant sa nature divine, et que sa présence, étant donné qu'il est chair, qu'il a pris aussi cette condition faite à partir de la terre, comme tout, qui est la nature de tout homme, puisqu'il a pris un élément créé, il transfigure en même temps tous les éléments créés. Donc, avec l'incarnation, c'est le cosmos tout entier, créé par Dieu, qui est aussi transfiguré et qui est restauré à sa vocation première. C'est ainsi que le bois et la peinture, en même temps que l'art de l'iconographe qui a écrit une icône, sont en soi transfigurés par la présence de celui qui est représenté. C'est-à-dire que le bois lui-même, si vous voulez, ou la peinture, ne sont plus uniquement du bois et de la peinture, mais participent d'une certaine manière, non matérielle évidemment, mais participent à la glorification de la nature. À l'image, ou à, semblablement, au pain et au vin qui sont utilisés pendant la liturgie pour devenir le corps et le sang du Christ. Le pain et le vin restent bien du pain et du vin, mais à ce pain et vin est mêlé, est uni plus exactement, aussi la vie du Christ. Donc ce pain et le vin sont porteurs, si je puis dire, ce pain et ce vin consacrés sont porteurs de la présence effective et de la vie du Christ. De la même manière que les icônes sont porteuses de la représentation et de la vie de ceux qui se manifestent à travers les icônes. Ceci est fondamental. Mais on peut encore en voir d'autres choses derrière cela. C'est l'action qui peut paraître visible, qui peut apparaître quelquefois, mais qui la plupart du temps est invisible, bien quoique réel, de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la présence de l'Esprit Saint chez les hommes, qui se manifeste à travers notre foi, à travers notre liturgie, à travers nos bénédictions, à travers nos prières, à travers tout ce qui fait la vie chrétienne, où le Seigneur nous donne une vocation, nous redonne la vocation que nous avions dans le paradis de transfigurer le monde. Le Seigneur nous avait dit à Adam, n'est-ce pas, dans la Genèse, il avait dit à l'homme de croître et de soumettre le monde. Soumettre le monde, ça ne voulait pas dire de le dominer comme un tyran pourrait le dominer et de faire n'importe quoi du monde. La vocation de l'homme, d'Adam et de nous par voie de conséquence, c'était de recevoir la vie de Dieu, ce qui nous était naturel avant le péché, et de communiquer, de déifier, de transfigurer le cosmos tout entier. Chose qui s'est soldée par un échec à cause du péché du péché d'Adam et d'Ève et celui auquel nous participons jusqu'à maintenant. Et, mais par la vie, par la descente de l'Esprit Saint qui nous unit au Christ, maintenant il nous est donné de nouveau de participer à la transfiguration, à la domination, mais domination par sanctification, par spiritualisation, si je puis dire, de tout le monde. C'est une des raisons pour lesquelles, à partir du moment où les hommes ou au fur et à mesure où on se détourne de Dieu et où on l'oublie, ou même où on s'y oppose, si les hommes ne suivent plus leur vocation de transfigurer le monde va à volo. Ce n'est pas une punition, mais quand vous avez un char tiré par 8 chevaux, tant que vous tenez les rênes, les chevaux vont là où vous voulez. Si vous lâchez les rênes, les 8 chevaux se sentent libres et tirent à hue et à dia, à droite et à gauche, et c'est la catastrophe. Eh bien, un monde où l'on ne prie plus, où l'Église n'a plus la possibilité, le pouvoir de l'Église a toujours le pouvoir, mais à partir du moment où les hommes dans l'Église ou manquent ou n'accomplissent plus leur vocation, le monde qui est aujourd'hui dominé par les forces mauvaises depuis l'entrée du péché dans le monde va effectivement de mal en pis. Et par rapport, par exemple, par rapport à toute la problématique moderne, contemporaine de l'écologie, à propos de la problématique de l'écologie, souvent, le problème est mal posé. Je ne veux pas faire un cours sur l'écologie aujourd'hui, mais notre but n'est pas de prolonger indéfiniment un monde qui, de toute manière, est voué un jour ou l'autre à son aboutissement, à sa finalité, qui est la transfiguration par la descente, la deuxième venue du Christ sur la terre d'une manière glorieuse pour glorifier le monde entier. Et non pas une fin catastrophique. Donc, ceci est le but. Et ce but-là, comment dire, notre vocation, notre place sur la terre est de favoriser d'attendre et de favoriser la venue du Christ pour la seconde fois et définitivement sur terre. À partir du moment où on ne le fait plus, le Christ viendra en gloire, mais en attendant, on aboutit à un retour, si je puis dire, à un chaos, à un déséquilibre des éléments et à des catastrophes de plus en plus grandes. Vous connaissez tous les histoires de Saint-Gérasim, du Jourdain dont on a célébré la fête cette semaine, qui se trouvant face à un lion qui souffrait de la patte, lui enlève une épine du pied, c'est le cas de le dire, une épine de la patte, et le lion a vécu domestiqué à côté de Saint-Gérasim, qui l'utilisait même comme une bête de somme. Et vous connaissez l'histoire de Saint-Séraphin de Sarov, qui dans son désert de Sibérie, de Russie, nourrissait aussi un ours pourtant dangereux. Et beau Saint Isaac le Syrien, où il n'y a pas tellement longtemps, Père Païsios, Saint Païsios maintenant, qui vivait avec des serpents. Et vous voyez qu'un homme qui se retourne vers Dieu retrouve transfigure la nature et retrouve la nature retrouve son but premier d'être dominé, d'être soumis à l'homme naturellement par obéissance. Eh bien, un monde dans lequel on prie retrouve cette orientation vers Dieu. Et le but, le triomphe de l'orthodoxie, c'est par notre conversion, donc figurée par le carême et expérimentée par le carême, nous remet dans le chemin d'une transfiguration du monde, humble évidemment, on n'a pas à se trouver les meilleurs, et là d'abord on n'a sûrement pas trop de mérite, on n'a pas sûrement de quoi s'en tirer gloire, mais notre vocation est d'être des prêtres qui sont des hommes debout, qui sont à la fois sur terre, avec les pieds, si je puis dire, et à la fois la tête ou le cœur, plus exactement au ciel, et qui font ainsi le lien entre le ciel et la terre, qui implorent au nom de tous les hommes, de toute la terre, de tout le cosmos, qui implorent Dieu de revenir sur terre, de venir, d'envoyer son Esprit Saint sur terre, et qui témoignent auprès des hommes et auprès du cosmos de la présence effective de Dieu sur cette terre. Et c'est ça le triomphe de l'orthodoxie. Pas uniquement pas uniquement la restauration du culte, de la vénération des icônes, mais c'est véritablement le signe même de l'essence de notre foi, dont on va fêter l'expression ou l'aboutissement par la résurrection le jour de Pâques, dont on va fêter l'extrême aboutissement encore quand on va fêter l'ascension, où après la résurrection, le Seigneur monte en gloire au ciel, mais nous entraîne avec lui, puisque nous sommes aujourd'hui un avec lui, là où il est, nous sommes aussi, comme il est invisiblement sur terre aujourd'hui avec nous, nous sommes avec lui aussi invisiblement au ciel, là où il se tient aussi. Et dont on va encore fêter la manifestation. Par exemple, le jour de la Transfiguration, ou la Transfiguration, ce sera cette illumination du monde entier avec nos personnes par la présence du Saint-Esprit dans nos vies.